cousin créole.
Qui?
Cousin créole.
Qui?
Il n'aime pas trop Mélenchon.
Quoi?
Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin fringard. Poussin créole est là.
Cet extrait provient d'une intervention du député de la France Insoumise, Éric Coquerel, le 21 décembre, sur le plateau de BFM TV. Regardez plutôt.
Le conflit, le 7 octobre, c'est un épisode qu'on doit dénoncer. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont le Hamas a procédé le 7 octobre, loin de là.
Le titre est un peu putaclic. Comme vous l'avez constaté, Coquerel n'avoue pas soutenir le terrorisme, mais vous allez comprendre avec mon analyse en quoi c'est ce qu'implique son propos. Il dit ne pas être d'accord avec la manière. Étrangement, son interlocuteur reste sans réaction. Il aurait pourtant été intéressant qu'il développe son propos et qu'il explique quelle serait donc cette autre manière à laquelle il pense. Quand on connaît les positions officielles de LFI, on devine ce qu'il voulait dire. Officiellement, LFI dénonce le terrorisme mais soutient ce qu'ils appellent la résistance palestinienne face aux colons israéliens.
À faire du bruit pour nous empêcher de dormir, etc. etc. Voilà. Mais je n'ai subi aucune violence physique. C'était davantage de la violence verbale ou de la violence, qu'on peut dire, psychologique, mais je n'ai subi aucune violence physique.
Officieusement, tout le monde sait que pour eux, le 7 octobre n'est qu'une conséquence fâcheuse mais compréhensible, une sorte de retour de bâton. Il n'y a qu'à se rappeler toutes les contorsions des députés LFI sur les plateaux télé et du mal fou qu'ils avaient à dénoncer de façon claire et sans ambiguïté les attentats du 7 octobre.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication.
Oui, c'est nécessaire d'avoir...
Est-ce que c'est un mouvement de résistance?
C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que
est-ce
les
que
mots sont
moi,
importants.
Moi, j'ai envie de clarification, justement. Donc, est-ce que c'est un mouvement de résistance?
C'est un groupe politique islamiste, qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes.
C'est un mouvement de résistance
qui a pour objectif la libération de la Palestine.
C'est un mouvement de résistance
qui résiste à une occupation.
Donc c'est un mouvement de résistance.
Oui.
Mais voilà, dans la résistance palestinienne, quelle est donc cette manière alternative qu'il évoque? Quelles sont les autres options des Palestiniens? Dans une lutte armée entre deux entités, il n'y en a pas 50. Il y a la guerre conventionnelle ou les attentats terroristes. Or, dans une guerre conventionnelle opposant une armée à une autre, le Hamas serait rayé de la surface de la Terre en seulement quelques heures. Ils n'ont pas de forces aériennes, pas de chars, pas de missiles, juste des mecs armés d'armes automatiques dans des pick-up. N'ayant aucune chance, il ne leur reste que trois options. Cesser la lutte, abdiquer et déposer les armes.
On mérite pas ! On mérite pas ! On mérite pas ! On est tout petit ! On est à chier !
Négocier ou le terrorisme. Mais voilà, dans le discours officiel de LFI, il n'a jamais été question d'exiger du Hamas qu'il dépose les armes. Je rappelle que LFI soutient la résistance palestinienne. Négocier ? Pour négocier, il faut être en position de force ou dans un rapport d'égal à égal, ou alors il faut avoir des alliés puissants qui pèsent dans la négociation.
Où est-ce qu'il a appris à négocier ?
Or, le Hamas est isolé et ses rares alliés ont assez peu de poids dans la région. Il ne reste donc qu'une seule option, le terrorisme.
C'est une stratégie désespérée parce que malheureusement, il n'en a pas de meilleur.
Sans le dire et sans même s'en rendre compte, je pense, Éric Coquerel vient de valider le terrorisme islamique.
Bravo ! Je comprends maintenant pourquoi j'étais forte en histoire à l'école. Parce que j'adore l'histoire, j'adore fouiller, j'adore comprendre. Vous voyez cette photo ? C'est une vraie photo, déjà. L'histoire de cette photo est très très intéressante, les amis. Très très intéressante. Pourquoi ? Pas parce que c'est un esclave. Mais à cause des clochettes là, ce qu'il a autour du cou là, c'est très intéressant à cause de ça. Vous connaissez tous l'histoire de cette photo sans le savoir. La chanson de Noël que tout le monde connaît, que tout le monde chante partout, partout. Même celui qui ne parle pas anglais chante. Jingle bell, nanana. En fait, c'était une chanson destinée aux esclaves, à la chasse aux esclaves.
Déjà, non, elle n'adore pas l'histoire, elle adore s'inventer des histoires. Premier réflexe, quand un afrocentré affirme quelque chose, le vérifier immédiatement. 9 fois sur 10, si ce n'est 10 fois sur 10, on réalise que soit ils relaient des théories minoritaires qui ne font pas consensus, soit ils inventent carrément des histoires.
Gna 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 toute la journée.
Ici, il y a un peu de vrai, mais surtout beaucoup de faux.
Les nationalistes fachos, monarchistos, zémoroïdes.
La chanson Jingle Bells, connue en français sous le titre Vive le vent, a été composée par l'américain James Lord Pierpont et publiée pour la première fois en 1857 sous le titre original The One Horse Open Sleigh, ou Le traîneau à cheval. Contrairement à une idée répandue, elle n'était pas initialement une chanson de Noël. Elle décrivait une promenade joyeuse en traîneau dans la neige, probablement inspirée des courses de traîneau populaires au XXe siècle en Nouvelle-Angleterre. Elle était plutôt associée à l'hiver en général. Des recherches récentes comme celle de l'historienne de référence Kina Hamill indiquent que la première performance documentée a eu lieu à Boston en septembre 1857, dans un contexte de spectacle de minstrel show, un genre controversé de l'époque impliquant du blackface. La chanson n'est devenue un classique de Noël que plusieurs décennies plus tard, grâce à sa popularité croissante et à ses reprises. Ces spectacles étaient une forme de divertissement populaire au 19e siècle, où des artistes blancs se maquillaient en noir pour caricaturer et moquer les Afro-Américains en perpétuant des stéréotypes racistes. Il semblerait donc que cette chanson, initialement innocente, ait été récupérée dans un contexte raciste propre à cette période de l'histoire des États-Unis. Néanmoins, même si les cloches attachées autour du cou des esclaves ont réellement existé, le lien avec cette chanson est unanimement considéré comme spéculatif et non prouvé. Conclusion, déclarer que Jingle Bells est une chanson raciste est aussi malhonnête que dire que les marchés de Noël c'est nazi. Kina Hamill elle-même n'affirme pas que cette chanson est raciste. On enchaîne avec cette soi-disant ancienne militante de droite à l'UDR, c'est-à-dire le camp sciotiste de LR, ceux qui ont fait alliance avec le RN. Je vous le dis d'emblée, je doute de la véracité de son récit. Son discours ne colle pas avec celui de quelqu'un qui est passé de droite à gauche.
Pas si que ça.
Salut, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans, et pendant 2 ans, j'étais militante à droite avant de complètement revirer. Voilà, cet été, j'ai eu une espèce de révélation et je me suis mise à vraiment me renseigner à fond. Et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qui vous fait adhérer à droite n'existe pas.
Première phrase qui ne colle pas, tout ce qui m'a fait adhérer à la droite n'existe pas. Pour avoir été moi-même LFiste dans un lointain passé, je peux vous affirmer qu'on ne bascule pas en un coup de baguette magique d'un camp à l'autre. C'est quelque chose de progressif. On ne passe jamais d'une idéologie à une autre totalement opposée en rejetant, comme elle l'affirme, tout ce en quoi on a cru dur comme fer pendant des années. On la remet en question, mais on ne rejette jamais tout. Ce n'est pas tout ou rien.
Il n'y a plus rien du toutou.
Il n'y a plus rien du tout du toutou.
Du toutou, non, rien.
Alors c'est tout ou rien?
C'est plus rien du tout.
Oh merde.
La première affirmation à laquelle j'ai cru, c'est l'immigration coûte trop cher à la France. En fait, l'immigration ne coûte absolument rien à la France, sachez-le. J'ai vu la vidéo d'un homme qui expliquait en fait qu'un immigré y rapporte autant que ce qu'il coûte à l'État. Et d'ailleurs, en plus, l'État se fait une plus-value sur les immigrés. Donc en fait, les immigrés rapportent même beaucoup de fric à la France. Ça, on vous le dira pas sur CNews, mais moi je vous le dis, et c'est vérifiable, hein, bien sûr, mais j'ai également la vidéo sur Instagram si vous voulez.
Premier argument, j'ai vu la vidéo d'un homme qui dit que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Commencer son argumentaire par « j'ai vu la vidéo d'un mec qui dit que », déjà ça fait pas très sérieux. Quel mec ? Gérard Noiriel, historien de plateau pro-immigration à France Télévisions ? Moi aussi je peux dire « j'ai vu la vidéo d'un mec qui dit exactement le contraire ». Jean-Paul Gourevitch par exemple, qui est arrivé au constat strictement inverse après avoir répertorié pendant 3 ans tous les coups liés à l'immigration. Ce sujet est tellement complexe qu'il est absurde de le balayer d'un revers de la main sur un ton si péremptoire. L'exemple de Gourevitch n'est d'ailleurs pas exempt de tout reproche, puisqu'il a lui-même recours à de nombreuses estimations dans son étude, les données officielles étant très souvent quasi impossibles à obtenir. Il est donc absurde d'être aussi péremptoire sur un tel sujet. Je peux vous dire que je suis intimement persuadé que l'immigration coûte plus qu'elle ne rapporte, mais je le présenterai comme une opinion personnelle, étant incapable de fournir des preuves irréfutables.
Et aussi la fameuse affirmation de l'immigration est délinquante. Alors ça, franchement, je m'en veux à mort d'être tombée dessus, parce que moi-même, étant petite fille d'immigrée, je sais très bien que mes grands-parents n'étaient pas des délinquants. Je pense que je me suis vachement fait avoir par une espèce de prolifération de vidéos où absolument à chaque fois, c'était des gamins qui étaient issus de l'immigration. Et je m'en veux énormément de tomber dans ce panneau-là parce qu'en fait, en allant regarder les statistiques, 97% des personnes en prison sont françaises. Donc non, les immigrés sont pas plus délinquants que les Français.
Deuxième argument, elle évoque l'affirmation à droite, l'immigration est délinquante. C'est un autre élément de langage qui me fait douter qu'elle ait été autrefois ce qu'elle prétend avoir été. Personne à droite ne dit que l'immigration est délinquante. Ça, c'est typiquement un élément de langage de gauche. Ce qu'on dit à droite, c'est que l'immigration a un rôle majeur dans la délinquance. C'est comme dire que les hommes ont un rôle majeur dans les viols, ce n'est pas la même chose que dire que les hommes sont des violeurs.
Bah ouais.
97% des personnes en prison sont françaises. Déjà, elle parlait d'immigration 5 secondes avant, et là, elle nous parle d'étrangers, ce qui est hors sujet. En plus, elle ment et hontément. Selon le ministère de l'Intérieur, les étrangers représentaient en 2023 environ 25% des détenus, soit un détenu sur 4. Et là, on ne parle que des étrangers, pas des détenus liés à l'immigration de façon générale. Les immigrés ne sont pas plus délinquants que les Français ? La meuf ne sait même pas faire la différence entre un immigré et un étranger. Un immigré peut être français si c'est fait naturaliser.
Les immigrés, ils sont surreprésentés dans les métiers difficiles, c'est les métiers auxquels les Français ne veulent pas participer. Femmes de ménage, par exemple, éboueurs, routiers, voilà. C'est vraiment des métiers dans lesquels bah, les Français ne travaillent pas parce que c'est des métiers qui sont très durs.
Là, elle dit vrai. Sur le global, il est vrai que les immigrés sont surreprésentés dans des métiers souvent décrits comme ingrats, mais là encore, les immigrés font le travail que les Français ne veulent pas faire est un élément de langage typique de gauche. Cet élément de langage précède celui-ci. Les Français ne veulent pas occuper ces emplois parce qu'ils sont très durs. le coup du français paresseux qui rechigne à faire des tâches difficiles, jamais une personne passée par l'UDR ne caricaturait le sujet de la sorte.
Cette affirmation est fausse, étant donné qu'un immigré qui arrive en France, en fait, il n'a pas d'aide à part l'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est le strict minimum.
Un immigré qui arrive en France n'a pas d'aide à part l'AME ? Encore un mensonge. Les immigrés en situation irrégulière et les demandeurs d'asile n'ont effectivement droit qu'à l'AME plus d'autres aides d'urgence relativement faibles. Par contre, tous les autres, réfugiés et immigrés en situation régulière, ont droit à la couverture maladie universelle, aux allocations familiales et au RSA. En plus, elle dit que l'AME c'est le minimum. Je peux entendre qu'on n'a pas le droit de laisser crever qui que ce soit sur notre territoire, qu'il soit dans la légalité ou pas. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que si tous les pays de l'UE possèdent ce type de dispositif, le système français est de loin le plus généreux d'Europe, la plupart des autres pays se limitant aux cas d'urgence vitale, tandis que la France couvre un très large éventail d'interventions, comme celle de confort, non urgente. De plus, l'argument fréquemment avancé par les gauchistes pour le justifier est un faux argument. C'est une question de santé publique, disent-ils. On est bien d'accord qu'un mec qui se pointe à l'hosto avec une maladie contagieuse, tu vas pas l'envoyer se faire foutre s'il n'a pas les moyens de payer pour qu'il se retrouve dans la nature à contaminer les autres. Cependant, faire soigner une myopie ou une carie ne relève en rien de la santé publique et ne justifie pas un maintien de l'AME en l'état. Rien ne justifie que la France soit si généreuse avec les étrangers, si ce n'est des principes moraux qui n'appartiennent qu'à eux. La suite, c'est un festival de n'importe quoi.
J'ai l'impression que les droits de l'homme commencent à ressembler un peu plus aux droits de l'homme du NSDAP, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, ensuite, franchement, ça c'est... Le classico, le RN est quand même créé par des nazis à la base, Éric Zemmour c'est un négationniste, Marie-Maréchal Le Pen, je sais pas combien de fois par jour elle fait de leur citation à la haine, mais c'est pas grave. Mais ça, visiblement, ça vous choque plus en fait, et ça me choque à moi parce que je sais que j'adore l'histoire de France et je sais que c'est le pays de la résistance. Comment un pays qui a résisté face à l'oppresseur peut aujourd'hui donner autant de gaz à un parti qui a été créé par ceux qui voulaient vendre la France aux Allemands? Genre, ça, je n'en reviens pas.
Le RN a été créé par des nazis, Éric Zemmour est un négationniste, lol, le négationnisme c'est la négation de la Shoah, et c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Quand est-ce que Zemmour a nié la Shoah?
Comment c'est possible ?
Marion Maréchal n'a quant à elle jamais été condamnée pour incitation à la haine. D'ailleurs, il n'y a que les gauchistes qui accolent systématiquement Le Pen au nom de Marion Maréchal. Bref, on va pas aller plus loin, cette meuf nous prend clairement pour des cons. Cette meuf, en plus d'être bête comme une brosse à chiottes, aligne les éléments de langage de gauche comme Mémé aligne les nouilles sur son collier. Elle prête à la droite des théories qui sont pas les siennes, leur prête des propos qui ne tiennent pas, et enfin, elle s'exprime dans un français très approximatif. Si cette meuf est une ancienne militante de l'UDR, moi, je suis le grand moufti de Jérusalem.